Allô, allô, bonjour à tous. Vous êtes concentrés? Ça va speeder. Je vous le dis. Alors, j'attaque, hein, direct, hein, cash, il n'y a pas d'intro. Enfin, si, c'est une intro, mais j'attaque. Qui aime les débats théologiques? Ça, ce n'est pas un débat théologique, c'est un débat politique. Mais je voudrais savoir qui aime les débats théologiques? Qui les déteste? Alors j'en vois un, mais qui les déteste? Qui n'aime pas les débats théologiques? C'est tout. Alors tout le reste sont des Bretons. Vous n'avez pas d'avis, en fait. Pourtant, je croyais qu'on était en Suisse. Si. Vous êtes neutres, c'est ça? Ah oui, c'est les Normands, pas les Bretons. Il n'y a que des gens neutres, pas d'avis. Ok, c'est bien, on a des convaincus dans cette église. Moi, je connais plusieurs chrétiens qui fuient les débats théologiques. Ils ne les aiment pas, non pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus ou la Bible, mais parce que soit ils ont assisté à beaucoup de débats théologiques stériles, soit ils ne voient absolument pas les implications concrètes des débats et trouvent ça totalement inutile, soit ils ont vécu des débats tellement douloureux qu'aujourd'hui, ou des assemblées générales douloureuses, qu'en fait, ils préfèrent les éviter. Et ils fuient. Il fuit. Si vous êtes dans cette situation, eh bien, sachez que j'en suis profondément désolé. Et je compatis à 100% et comprends tout à fait ce que vous ressentez. En tout cas, j'espère n'avoir pas été l'initiateur du débat, si tel a été le cas. Moi, je viens d'une famille athée où chacun avait des convictions politiques tranchées. Et je garde un souvenir assez impérissable de nos réunions de famille où les débats politiques fusaient vraiment dans tous les sens et régulièrement. En fait, je vous ai mis ici la description des membres de ma famille. Mon grand-père était communiste. Mon grand-oncle était gaulliste. Ma maman était socialiste et mon oncle était un écolo babacool. Quand on avait nos réunions de famille, ça se terminait souvent en pugilat. Véridique. Je me souviens avoir vu ma maman et mon oncle pleurer parce que mon grand-père défendait avec conviction le communisme de Staline. Et j'ai vu mon oncle, l'autre, mon grand-oncle, sortir de ses gonds et sortir toutes sortes de noms d'oiseaux, je ne vais pas dire lesquels, tout simplement parce qu'il était contre son adversaire. Bien sûr, c'était souvent la gauche contre la droite, hein, mais ça se frictionnait en permanence. Mais vous savez comment j'ai réagi? Pendant des années, je ne voulais plus jamais entendre parler de politique. Parce que quand on vit des choses difficiles comme ça, on prend du recul et on se dit « mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert se battre pour des opinions ?» Et puis du coup, j'ai pris tellement de distance que je me suis totalement désintéressé de tout débat politique. Et je pense que j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que j'ai fonctionné comme le balancier. Hein. On est en réaction. Donc on vit quelque chose de difficile à gauche, et qu'est-ce qu'on fait? On s'en éloigne le plus possible, et on va à droite. Mais là, on finit dans un autre extrême, parce que les débats politiques, toutes sortes de débats, les discussions, peuvent être constructives et bonnes, en fait. Et elles sont nécessaires, même, pour faire avancer les choses. Ce matin, on va assister à un débat. Et mes amis, si ce débat théologique n'avait pas eu lieu, la moitié des gens de cette salle ne seraient pas ici. Et je pense à vous, messieurs. Vous savez pourquoi? Quick. La circoncision aurait été imposée à tous les membres. Bah, pas vous, mesdames. Hein. Ouf. Mais le débat théologique qui a eu lieu, s'il n'avait pas eu lieu et s'il s'était mal déroulé, s'il n'avait pas abouti, si on n'avait pas pris les Écritures, aujourd'hui, la moitié des gens de cette assemblée auraient dû avoir une intervention chirurgicale et souffrir pendant un bon moment, surtout quand on fait la circoncision en tant qu'adulte. Remerciez Dieu pour le débat théologique d'Acte 15. Vous, messieurs, vous pouvez remercier le Seigneur, mais de tout votre cœur. En fait, le débat de Acte 15 a commencé, allez, on va lire juste les 6 premiers versets pour avoir un petit peu la teneur de ce débat, la nature de ce débat. J'étais assez fier de mon titre, je trouvais qu'il y avait un bon jeu de mots. Les apôtres tranchent la question de la circoncision. Merci, ça se tweet. Des fois, je suis inspiré. C'est dommage, c'est que pour les titres. Alors, quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Mes amis, c'est grave de dire des choses comme ça. Il en résulta un conflit, évidemment, et de vives discussions avec qui ? Le champion de la grâce, Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église, pourvue à leur voyage, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Voilà la nature du désaccord. Quelques responsables juifs pharisiens, donc du côté assez, même très légaliste de la religiosité juive, sont venus directement de Jérusalem, se sont rendus à Antioche et ont commencé à prêcher dans l'église. Imaginez une assemblée générale comme aujourd'hui, quelqu'un qui se lève et qui dit « Mes frères, vous n'êtes pas au courant qu'il faut que vous vous fassiez circoncire. » Comment on réagirait ? Est-ce que vous pensez que les anciens resteraient sagement assis et puis qu'on leur dirait « Ah, merci mes frères, on n'avait absolument pas vu ça dans l'Écriture, on va prier pour essayer de le mettre en place. » Est-ce que vous pensez réellement que les anciens auraient fait ça aujourd'hui ? Je pense que je serais monté au créneau. « Quoi ? Tu veux que je me fasse circoncire ?» On va discuter avant, hein ? On va discuter avant de prendre le bistouri. Et c'est normal. C'est normal. Pourquoi les apôtres sont montés au créneau à ce moment-là ? Parce qu'on touchait un point essentiel. On touche à la grâce de Dieu. On touche au plus merveilleux cadeau que Dieu a offert à tous les croyants, les amis. Si tu touches à la grâce, tu touches à l'évangile, tu touches à Jésus, tu touches au salut, finalement, tu touches au point fondamental du christianisme. Et là, ça passe plus. Et les apôtres vont réagir fortement, fortement. Et c'est ce qu'on voit ici, ils vont monter au créneau parce que le salut par grâce est la chose la plus essentielle, mes amis. On veut, en tant qu'humain, toujours rajouter quelque chose à l'évangile. On veut mériter quelque part, discuter avec vos voisins, vous allez voir. Ah, mais c'est trop facile. Quand vous leur annoncez l'évangile de la grâce, ils vous regardent, ils vous disent, mais c'est trop facile, ta foi. Qu'est-ce que je dois faire pour mériter l'évangile ? Rappelez-vous du jeune homme riche, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Vous voyez, quand on est quelqu'un de moral, on demande toujours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus ? Mais Dieu dit, non, non, t'as justement rien à faire. C'est un cadeau gratos. Je te l'offre, je te le donne. Et la plupart du temps, on essaye de mettre notre moralité en avant. On essaye de mettre toutes nos réalisations, tout ce qu'on a fait dans notre passé. Et puis quand on se compare aux autres, on se dit « finalement, on n'est pas si mal. Moi, j'ai tué personne. » Vous l'avez déjà entendu, celle-là aussi. Et bien évidemment, ça, c'est quand on considère qu'on peut mériter son salut grâce à ses actions. Comme on a tué personne, ça veut dire que nous, on a fait suffisamment de bien pour mériter le ciel. Je ne sais pas si vous êtes dans cette situation, mais j'ai une très, très mauvaise nouvelle pour vous. C'est qu'en ayant cette attitude, vous ne pouvez pas recevoir l'Évangile. Jésus ne peut pas entrer dans votre vie. Il ne peut pas, tout simplement, parce que vous lui en freinez la route. Vous avez mis des barrières qui l'empêchent de venir. Vous devez comprendre que vous êtes pécheur, que vous ne méritez pas ce salut. et que c'est Jésus qui vient, qui meurt sur cette terre. Il vient, il passe une vie parfaite. Il nous acquiert le salut. Mais lui, il l'acquiert parfaitement parce qu'il a vécu une vie parfaite. Et il va offrir sa vie en substitution. Et il va échanger sa vie contre la nôtre. Sa vie parfaite contre notre injustice. Il nous offre, il nous donne sa justice, il nous impute sa justice. Il nous couvre de sa justice. Si on le laisse prendre les rênes, si on lui demande de devenir notre roi. Et bien sûr qu'on marche ensuite avec les règles du nouveau royaume dans lequel nous sommes. Il n'y a pas d'œuvre à pratiquer avant le salut, mais après, une fois qu'on est sauvé. Parce que justement, si Dieu nous sauve par 100% à cause de sa grâce, ça veut dire qu'il m'accueille tel que je suis, quelle que soit mon orientation sexuelle, quelles que soient mes pratiques sexuelles, quel que soit mon passif. Dieu me prend là où je suis. Tu n'as pas besoin de devenir hétérosexuel si tu es homosexuel. Non, Dieu t'accueille comme tu es, dans ta crasse, dans ton péché. Et ensuite, il va te changer. Et ça, ça va se faire progressivement. Donc quand vous entendez le message de l'Évangile, n'essayez pas de dire « Ah oui, mais moi, je ne suis pas assez bon pour ça. » Ça veut dire que là, tu essayes de gagner le salut par tes œuvres. Non, non, reste justement comme tu es. Viens Jésus et lui va changer tout ça. Ça va prendre le temps que ça prendra. Il va changer. Et là, tu vas effectivement changer ton comportement. Mais c'est une fois que tu connais Jésus, pas avant. Les œuvres, elles viennent après le salut, pas avant. Mais si tu commences à vouloir rajouter quoi que ce soit à l'Évangile, là, c'est radical. Et là, il faut trancher. On verra ça tout à l'heure dans les applications. Ici, les apôtres vont s'y mettre à quatre pour nourrir les arguments. Et le premier qui dégaine, c'est l'apôtre Pierre. C'est toujours le premier, l'apôtre Pierre. C'est celui qui a la bouche ouverte, hein, le premier à réagir. Et c'est ce qui va se passer, et c'est ce qu'on lit. On va voir maintenant quatre arguments béton qui prouvent que le salut s'obtient par la grâce. Quatre arguments béton. Est-ce que vous êtes prêts? Vous notez? Parce que ça va aller vite maintenant. Je vais mitrailler. Versets 7 à 9. Le premier argument, c'est que le don de l'esprit à des païens prouve que le salut s'obtient par la grâce. Le don de l'esprit qui a été offert aux païens. Regardez ce que Pierre rappelle dans les versets 7 à 9. Pierre se leva et leur dit « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous, les Juifs, et eux, les païens. » Est-ce que ça vous rappelle quelque chose où Pierre était présent quand il a rencontré des païens? Une situation qu'on a déjà vue au chapitre 10 du livre des Actes. De qui on parle ici? Corneille. Corneille et ses amis. L'apôtre Pierre a été délégué exprès pour venir constater que ces gens ont reçu le même esprit qu'eux à la Pentecôte. Ils se mirent à parler en des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Un miracle extraordinaire. À ce moment-là, Corneille et sa famille et ses amis sont là, ils reçoivent l'esprit. Et pour leur montrer, pour attester qu'il s'agit de la même chose qui s'est passée à la Pentecôte à Jérusalem et dont Pierre était témoin, eh bien, ils vont faire les mêmes manifestations. Ils n'ont pas pu apprendre ces langues comme ça. Ils vont se mettre à parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Un miracle extraordinaire, les amis. Ce n'est pas de la cacahuète, là. Ce n'est pas un faux miracle. Ce n'est pas de la contrefaçon, une répétition de Shabadawada. Non, 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 tu apprends pas une langue et tu la récites. Si je me mets à parler le portugais, les amis, inquiétez-vous. Enfin, oui et non. J'ai pas appris le portugais. Je connais quelques mots. Obrigado. Si. C'est bon, ça, j'en connais un. J'en connais d'autres quand même. Mais c'est un peu limité. Je n'arriverai pas à faire des phrases et à vous prêcher l'évangile en portugais. Mais si jamais je le faisais, c'est que là, il y a une intervention miraculeuse de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que Pierre rappelle. Mes amis, si eux qui sont païens ont réussi à faire la même chose et ont reçu les mêmes bénédictions que nous à la Pentecôte, c'est que c'est le même esprit, c'est que c'est la même grâce. Ça nous a été offert, on n'a rien fait, c'est descendu du ciel, ça nous est tombé dessus, on s'est mis à parler. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est subi. Et là, on a vécu la même chose avec Corneille, les amis. Ça, c'est la preuve ultime que le salut s'obtient par la grâce. Ces gens-là n'étaient pas convertis. Ils étaient romains. C'était des bons païens. Et ils ont reçu le même esprit que nous. Donc, ça prouve que le salut s'obtient par la grâce et non pas par la mise en pratique de la loi. OK ? Premier argument. Deuxième argument, assez fort, que Dieu va utiliser, c'est ici l'incapacité de la loi à sauver parce qu'elle va prouver que le salut s'obtient par la grâce. Regardez ce que dit le verset 9. « Ayant purifié leur cœur par la foi. » Vous avez vu ?« Ayant purifié leur cœur par les œuvres de la loi. » Pierre dit quoi ?« Par la foi. » Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug, un poids que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais quoi ? C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Et vous voyez, il fait encore une référence aux autres ici. Ici, l'apôtre Paul est clair, parce que ce n'est pas clair pour ces gens. Ce n'était pas clair pour ces judaïsants. Ils voulaient revenir à la loi, ils voulaient rajouter la circoncision et ils voulaient aussi rajouter des pratiques de la loi. Et il dit clairement, mais non, c'est par la foi qu'on est sauvés, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. C'est écrit noir sur blanc dans ces versets. Je vais prendre un autre texte un petit peu plus tardif qui est adressé à des Romains. Mais le salut par la grâce, par le moyen de la foi, c'est probablement le message le plus clair et le plus limpide du Nouveau Testament. Il est martelé dans tous les sens. Tous les apôtres en parlent, et l'apôtre Paul en particulier. Lui qui a été confronté en permanence, parce qu'il allait prêcher dans les synagogues avant d'aller prêcher aux païens, il avait affaire à des judaïsants qui constamment revenaient. « Oui, mais nous, on est juifs, on a quand même un avantage sur les païens. »« Oui, t'es un peu plus léger. » Pas grand-chose, à vrai dire, hein. T'es un petit peu plus léger, on t'a un peu écourté, comme tu l'as dit tout à l'heure si bien. Mais ça ne fait rien de plus. Parce que le salut ne s'obtient pas par la circoncision. Il s'obtient par la foi, par la grâce. Regardez ce texte qui va clarifier les choses, parce qu'il s'adresse encore une fois à des Juifs, à Rome. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, qui sont enfermés sous l'obéissance de la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable par Dieu. La loi, elle est là pour révéler le péché, mes amis. Elle n'est pas pour qu'on... elle n'est pas là pour être sauvé. Personne ne peut être sauvé par l'application de la loi. Dans l'absolu, oui, mais comme personne n'arrive à la mettre en pratique d'une manière absolue, personne n'est sauvé par la loi. Seul Jésus a pu l'être, parce qu'il n'a jamais péché, vous voyez. Mais ici, il dit « tout le monde est enfermé dans la loi ». Elle révèle le péché, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul, personne, nada, aucun humain, aucune personne pieuse, même la plus pieuse de la planète, la plus vertueuse de la planète. Vous pouvez citer qui vous voulez, tous les saints de l'histoire. Les saints un peu plus reconnus, Gandhi, Mère Teresa, l'abbé Pierre, ils sont tous à la même enseigne, mes amis. Tous, sans exception, les pasteurs y compris. On ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Elle n'est juste là comme révélateur. C'est juste un radar qui nous identifie. Tiens, t'as été flashé ce matin. Une fois de plus. Une fois de plus. Je confesse rien, je ne me suis pas pris de PV, j'espère, ce matin. Regardez la suite, parce que ça, c'était la mauvaise nouvelle. Hein. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, déjà dans l'Ancien Testament. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, vous voyez, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Est-ce que le message est clair pour vous ce matin? Je ne peux pas être plus clair que ça. Je ne peux pas être plus clair que Paul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Si tu reconnais que tu es pécheur devant Dieu, que tu es en faillite spirituelle, que moralement, tu as enfreint, même un seul commandement suffirait. Mais je pense que si tu es comme moi, tu en as enfreint beaucoup de commandements, quasiment même tous les commandements, on peut le dire, au moins en pensée. Et là, ça c'est la mauvaise nouvelle, on est perdu. À partir du moment où on enfreint la loi, on ne peut plus passer la douane divine. À l'entrée, il y a marqué « Ok, montre-moi la carte de ta perfection. Où est ta carte de sainteté ? Ta carte, elle doit être vierge. Et tu dois présenter une carte blanche. » Eh bien, les amis, à partir du moment où il y a un seul péché qui est inscrit sur ta carte, c'est foutu. Tu ne peux pas rentrer. Et à la douane divine, les amis, personne ne peut rentrer. Hein. Tu es foudroyé immédiatement dès que tu franchis la ligne. Si tu as le moindre écriteau, un point, une virgule, quoi que ce soit, ping, tu es mort. Et là, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais, on est gratuitement justifié par quoi ? Par sa grâce. Vous voyez, on n'y est pour rien. On n'y est pour rien. C'est un cadeau, un don, la grâce. Dieu nous l'offre. Et c'est pour ça qu'on doit le recevoir. Mais il faut d'abord encaisser la mauvaise nouvelle, reconnaître qu'on est pécheur et ensuite recevoir le cadeau que Dieu nous donne par la foi. C'est par la foi. Mes amis, si vous ne le faites pas, je vais vous poser une question. Comment tu sais que tu es sauvé aujourd'hui même sur ta chaise ? Je ne vous demande pas une réponse orale, mais dans ta tête, réfléchis bien à la réponse que tu vas donner. Comment tu sais que tu es justifié par Dieu ? Si tu me dis, c'est parce que je vais à l'église tous les dimanches, que je lis ma Bible tous les jours, que je prie avec que je prie dans un groupe de croissance, que je vais au groupe de maison. Si tu réponds ça, je te dis, dommage, mauvaise réponse. Parce que là, ton salut dépend de tes activités, de tes performances, de ta discipline. Non, la bonne réponse... Comment je sais que je suis sauvé ? Parce que la Bible le dit. Parce que la Bible dit que je suis justifié par la grâce de Dieu. C'est la seule chose. Et parce que le Saint-Esprit vient attester dans mon cœur. Ça, c'est surnaturel. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place. Mais mes amis, si ce n'est pas la parole de Dieu et Jésus qui vous sauve, alors vous allez trembler à la moindre désobéissance, au moindre péché que vous allez commettre, vous allez penser à avoir perdu votre salut. Parce qu'il dépend de vous, de votre obéissance. C'est pour ça que je vous dis que le salut ne doit jamais avoir la moindre parcelle humaine. Parce que s'il y a le moindre détail de ma personne qui vient se mêler au salut, c'est foutu. C'est foutu. Est-ce que c'est clair pour vous ? Allez, troisième argument. Les miracles. Les miracles prouvent que le salut s'obtient par la grâce. On l'a déjà vu la dernière fois, en fait, mais là, il ne fait que reprendre cet élément. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta, cette fois-ci, Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Ces deux premiers arguments ont calmé tous les judaïsants. Ils ont fermé leur bouche et ils ont été tout penauds en disant « Ah ouais, on n'avait peut-être pas vu ça comme ça. » Et là, il enfonce le clou et c'est Barnabas qui prend la parole. Vous voyez, il est cité d'ailleurs avant Paul ici. Et donc, ils vont rappeler qu'eux ont vu des miracles et qu'ils ont fait des miracles. C'est par leurs mains que Dieu a fait des miracles. Et le fait de faire des miracles, c'était une preuve d'authenticité que leur message venait bien de Dieu. Eux, les judaïsants, avaient un autre message, mais ils étaient totalement incapables de faire le quelconque miracle. Or, les apôtres en ont fait à l'appel. Regardez ce que dit Hébreux 2. On avait lu le texte la semaine dernière dans Actes 14, mais là, j'en ai mis un autre pour vous montrer que ce n'est pas isolé. Regardez ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Vous voyez ici, c'est la preuve que quand les apôtres faisaient des miracles, c'est Dieu qui authentifiait. Et donc ça, c'est une preuve irréfutable quelque part. Ils les ont vus, ces miracles-là, et ils ne peuvent rien dire. Donc là, bec cloué. Et c'est pour ça qu'ils ne disaient rien. Quatrième et dernier argument, les prophéties prouvent que le salut s'obtient par la grâce. Et là, il va faire une citation d'un texte de l'Ancien Testament. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Homme, frère, écoutez-moi, Simon, donc là c'est Pierre, Simon c'est le même, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Et là il parle d'Abraham. Hein ? Abraham a été choisi parmi les païens pour, il a été extrait quelque part pour devenir le porteur d'un salut, en fait d'une bénédiction qui allait être transmise. Mais ça vient des païens, est-ce que Abraham était circoncis ? Et le salut avait déjà démarré ici. Regardez la suite. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Donc là, c'est la suite. Selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, à qui elles sont connues de toute éternité. Cette fois, c'est Jacques. Vous avez remarqué qu'on a encore changé. Une fois qu'on est passé de Pierre, Barnabas et Paul, et maintenant c'est Jacques, c'est l'artillerie lourde là. On a vraiment les poids lourds de l'apostolat ici. Les poids lourds qui sont là et qui vont vraiment enfoncer le clou ici. Et là, j'écourte ici, mais il cite Amos au chapitre 9 pour montrer que ce salut qui était adressé au départ à des païens, qui ensuite a été un peu isolé au peuple juif, à Israël, était fait pour l'ensemble, et c'est nous maintenant, l'Église, et donc il allait être ouvert à tout le monde. Et c'était ça dès le départ, c'était prévu et c'était écrit. Et donc les prophéties, alors il en cite qu'une, mais il y en a des dizaines, qui montraient que ce salut allait être pour toutes les nations. Israël devait être une lumière pour toutes les nations. Jésus devait être la lumière, la véritable lumière, mais les Israélites aussi, et nous aujourd'hui, vous voyez. Alors, voilà, je termine ici les quatre arguments et j'aimerais savoir, enfin pas savoir, mais vous orienter pour appliquer ce texte. Quelle leçon peut-on retirer de ce texte, de ce récit, de ce débat ? La première qui semble une évidence, n'ajoute rien à la grâce pour ton salut. Là, je te tutoie parce que les applications, elles doivent être concrètes et elles doivent te rattraper là où tu es. N'ajoute rien à la grâce pour ton salut. Je ne sais pas si vous connaissez le café Maxwell. Ils avaient un slogan, c'est dans les années 90. Leur slogan, c'était « Maxwell, ce n'est pas la peine d'en rajouter hein, ». Quand tu goûtes ce café-là, normalement, c'est le top. C'était vraiment pas bon, mais c'était leur pub. Le salut, mes amis, le salut par la grâce, c'est comme le café Maxwell. C'est pas la peine d'en rajouter. Si tu rajoutes la moindre œuvre à ton salut, alors il perd sa qualité de cadeau. C'est plus un cadeau. C'est du troc que tu es en train de faire avec Dieu. Et là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Moi, j'aime bien cette illustration d'un théologien qui s'appelle Lenski. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Le fait de déclarer quoi que ce soit en plus de Christ comme étant nécessaire au salut, qu'il s'agisse de la circoncision ou de toute autre œuvre humaine, revient à nier que Christ sauve parfaitement, à élever à son niveau quelque chose de purement humain et même à en faire la composante la plus importante du salut. Certes, l'erreur serait fatale, car si on construisait un pont, et c'est l'image qu'il y a ici, entre la terre et les cieux, à 99% de Christ, et ne serait-ce qu'à 1% de quoi que ce soit d'humain, ce pont se romprait inévitablement à la jointure et cesserait à l'instant d'être un pont. » En effet, même s'il était vrai que Christ nous portait sur une longueur de 999 kilomètres et qu'il fallait quelque chose de purement humain pour nous faire franchir le kilomètre qui reste, nous nous retrouverions tout de même en suspendant les airs et encore très loin des cieux. Je trouve ça extraordinaire, cette image-là. C'est pas parce que même tu laisses 999 kilomètres, c'est Jésus qui construit l'autoroute, et puis toi, tu dois juste construire le dernier kilomètre. Ah ! Eh ben, tu n'y arriveras pas. Ça ne marche pas, en fait. C'est Dieu et c'est Jésus le pont parfait entre Dieu et les hommes. Si tu t'immisces dans ce pont, il va s'effondrer à un moment donné et tu penseras alors que tu vas perdre ton salut que tu n'as jamais eu d'ailleurs. Deuxième leçon que j'aimerais tirer, c'est fais du tri dans ta théologie. Fais du tri dans ta théologie. En fait, tous les combats ne sont pas utiles. Ici, les apôtres sont montés au créneau parce que les judaïsants, remettaient en cause un point essentiel, un point qui touchait au salut, un point qui touchait à l'évangile, un point qui touchait à la grâce. Mes amis, quand on a un élément comme ça qui est touché, alors on doit intervenir. Mais ce que je constate dans les milieux évangéliques, et quand je vois la foison des dénominations ou des implantations d'églises un peu forcées, qui ne sont pas vraiment des implantations d'églises, mais plutôt issues de divisions d'églises, et les évangéliques, on est des champions toutes catégories dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que les gens qui se divisent, en général, n'ont pas hiérarchisé la doctrine. Et donc, ils mettent au même plan le salut par la grâce, et puis, par exemple, la prise de la Sainte-Cène. Il y a eu des divisions à cause de gobelets en plastique. Parce que, comme dans la Bible, c'est marqué qu'il faut boire dans une coupe, il y en a qui sont convaincus qu'on doit boire dans une coupe. Et d'autres qui se disent, mais non, avec les règles d'hygiène, il faut qu'on ait des petits gobelets en plastique, isolés, individuels, pour pas qu'on se refourgue nos virus. Et ce petit détail, mes amis, ça cause des divisions. Et il y a des gens qui se sont séparés pour ça. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Discuter, faire un débat. Ok, est-ce que c'est un point essentiel qui touche au salut ? Je vous pose la question. Non ? On est d'accord ? Est-ce que manger du pain et boire du vin est une question de salut ? Là, je parle juste du détail organisationnel. Mais c'est là-dessus que les divisions ont lieu. Pendant le Covid, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui regardaient le vaccin en écoutant toute une branche de scientifiques qui disaient « on n'a pas assez de recul, attention avec le Covid ». Et eux, ils se disaient « attention, moi, je ne veux pas me faire vacciner parce que ça pourrait être potentiellement dangereux, on n'a pas de recul sur ces vaccins ». Et puis, il y avait toute une autre branche de chrétiens qui, eux, se disaient « mais en fait, c'est de l'inconscience. On a le moyen d'éviter la Covid, et donc il faut absolument se faire vacciner parce qu'on doit aimer notre prochain, et en se faisant vacciner, c'est une manière d'aimer notre prochain. Donc, si tu ne te fais pas vacciner, c'est que tu n'aimes pas ton prochain, donc tu n'aimes pas Dieu, donc tu es un pécheur. Nous, les anciens, on a dit « ok, est-ce que c'est une question de salut ?» Non. Alors, on le remet à sa place. Et on a essayé de jongler avec ces deux points de vue. Et ils étaient dans l'Église. Et ça n'a pas posé de problème chez nous. Mais je peux vous dire que dans le monde entier, ça a créé des divisions dans les Églises. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui nous regardent aujourd'hui derrière l'écran, qui ne vont plus jamais mettre les pieds dans une Église parce qu'ils ont vécu ça. Mon ami, si ça t'arrive, reviens dans une Église. Réfléchis. Tu as mal placé simplement le curseur au bon endroit. Si c'est quelque chose de fondamental, alors oui, tu dois t'éloigner éventuellement. Mais quand ce n'est pas quelque chose de fondamental, discutons, les amis. Discutons et avançons ensemble. Philippiens chapitre 3 nous donne un bon exemple, versets 15 et 16. Relisez-le. Marchons ensemble. Là, on est arrivé, ok, il y a une petite impasse, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une question de salut. Avançons. Il y a un ouvrage que nous étudions actuellement avec les anciens. C'est cet ouvrage-là, Sacré Désaccord, et lui, il aide à classifier. Et c'est ce que nous-mêmes, on est en train de faire dans notre confession de foi, parce qu'on s'est aperçu que parfois, on mélangeait les points fondamentaux avec des points qui ne l'étaient moins, et on les mettait au même niveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des convictions, d'accord ? Et les anciens, on gardera très probablement la même confession de foi, sauf qu'on va la classer différemment. On va mettre d'un côté les points fondamentaux sur lesquels, si tu ne crois pas ça, tu ne peux même pas être membre, en fait, parce que tu ne crois pas un point fondamental. Mais par contre, ces points-là, on peut ne pas être d'accord, ce n'est pas fondamental. Si tu es ancien, tu devrais être d'accord avec ça, mais pas forcément tout le monde, vous voyez ? Et on peut discuter. Et personne n'aura une réponse définitive à la fin de la journée. Parce que c'est des questions difficiles, épineuses, mais comme elles sont soit secondaires, importantes, mais pas fondamentales, eh bien on les classe ici dans la catégorie B ou C, alors c'est pas très grave. Par contre, dans la catégorie A, ce sont les convictions essentielles, et ça, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui est essentiel. Et moi, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Ne mettez pas au même rang la prise de la Sainte Cène avec le salut par la grâce. De grâce. De grâce. Allez, dernière application. Attaque férocement les hérésies, pas les humains. Le danger, quand on est en débat, surtout nous les Français, on est des sanguins. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des débats entre Français. Vous vous demandez s'ils sont en train de se disputer. Non, ils discutent. Ou même des Brésiliens, j'ai vu que ça tchatche les Italiens. Les Latins, en fait. On s'exprime avec des gestes, et puis on exprime nos émotions, et je suis pas content, et t'as tort, et j'ai raison. Pas vrai ? Et les Suisses sont là. Je crois que j'aurais rien dû dire aujourd'hui. Moi, j'étais neutre. Quand on m'a posé la question si j'étais pour ou contre, j'ai rien dit. C'est pas mieux, les amis, hein ? Quand on n'a pas d'avis, c'est pas mieux non plus. Mais si vous montez au créneau, faites-le d'une manière justifiée. Il y a des raisons pour lesquelles on doit vraiment monter au créneau et on doit être féroce. Féroce quand on touche au salut par la grâce. « Tu touches pas à mon cadeau !» Jésus dit. Touche pas à mon cadeau. Et les apôtres ne voulaient pas qu'on touche à leur cadeau. Regardez ce qu'il dit, l'apôtre Paul aux Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. On commence par la grâce et regardez, pour passer à un autre évangile. Eh oui, si tu commences à rajouter quelque chose à ton salut, c'est un autre évangile, c'est plus le même. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Et là, le contexte, c'est en vous demandant de vous faire circoncire. On est exactement dans le même contexte. Mais là, Paul, il va être un peu plus tranchant. Il sort le bistouri théologique et il va trancher. Vous allez voir, ça va aller très loin. Mais si nous-mêmes, nous les apôtres, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Vous imaginez ce qu'il dit là ? Il s'inclut là-dedans. Nous-mêmes, ou un ange, quelque chose de plus grand que vous, vous annoncez un autre évangile que l'évangile de la grâce, mes amis. Fuyez, parce que c'est une malédiction qui tombe sur vous. Soyez maudits. Mais là, il n'est pas en train de lapider une personne. Il s'attaque à ses idées. D'accord ? Et on ne doit pas s'attaquer aux humains. On ne doit pas détester les hommes qui sont en débat contre nous. Et c'est ce que j'ai observé quand il y avait ces débats politiques en famille. On se détestait les uns les autres. On était capable d'insulter un homme politique. Je me dis, mais c'est un humain, il est à l'image de Dieu. Pourquoi tu l'insultes ? Respecte-le. Tu n'es pas d'accord avec ses idées, c'est une chose. Ok, là, tu peux y aller. Tranche. Regardez, on va légèrement plus loin et je termine là-dessus. Toujours l'apôtre Paul au chapitre 5, de la même épître, avec les mêmes personnes. Regardez ce qu'il dit. Et là, je peux vous dire que ça va trancher. Je rigole d'avance. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage de la loi. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Ok ? Tu veux te faire rebaptiser ou je ne sais quoi d'autre ? Rajouter un rite pour ton salut, ça ne sert à rien. Ça veut dire que là, tu es en train de dire « Christ, il est inutile. Et je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Là, c'est deux arguments de force. Hein. Jésus, il ne sert à rien. Et ensuite, eh bien, ok, tu veux obéir à ça. Mais alors, pas seulement ce commandement-là, mais les 612 autres qui restent, parce qu'il y a 613 commandements dans l'Ancienne Alliance. Ok, t'es prêt ? Il ne te reste que 612. Et là, ça va encore plus loin. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et là, ça tranche, regardez bien. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix donc disparu ? Qu'ils se mutilent, donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Et ça, c'est l'argument tranchant. Qu'ils se mutilent. C'est-à-dire que là, il s'adresse à des gens qui voulaient se circoncire. Mais Paul, il dit, mais pas seulement le bout, coupe tout. Tranche. Si tu te dis que ta circoncision, c'est une manière d'aimer Dieu, mais montre-lui que tu l'aimes d'une manière radicale, complète, tu coupes tout. Et là, je peux vous dire que ça a dû frapper l'esprit de tous ces judaïsants. Le poids des mots ici. Hein. Bien sûr, c'est une image qu'il utilise ici. Il va loin, mais c'est pour frapper leur esprit, pour les réveiller, pour leur dire, eh oh les amis, vous voulez vraiment vous faire circoncire ? J'espère que vous ne voulez rien rajouter au salut, les amis. Ah, rien. Pas une goutte. Rien. Tout est accompli par Jésus. Tout. Tout est accompli par Jésus. Si ça ne touche pas un point fondamental, alors sois cool, discute paisiblement. Si tu touches à l'Évangile, au message de la grâce, au salut, à la divinité de Jésus, à l'autorité de la Bible, et à bien d'autres sujets, là, effectivement, tu dois sortir les dents et être féroce, mais pas avec les humains, avec leurs idées. D'accord ?